S comme C, des outils pour la vraie vie. Bonjour, ici Sandrine Donzel de S comme C. Je vous propose aujourd'hui un article concernant un enfant très stressé qui vérifie tout 10 fois. Toujours dans la série Enfants anxieux, intéressons-nous cette semaine aux enfants très stressés qui vérifient 10 000 fois leur sac, qui n'ont jamais assez révisé, jamais assez repassé leurs leçons. Et pour ça, je vais vous parler de Thomas. Thomas a 12 ans, il réussit très bien à l'école. Hyper bien même, jamais une note de travers, 18 de moyenne générale. Quel est le problème alors? Le problème, c'est le prix qu'il paie pour obtenir ses notes. « Notre enfant est trop stressé », me disent ses parents. « Il n'a pas du tout confiance en lui. » Mais comment peut-on être un enfant très stressé quand on réussit tout? La première chose qui inquiète les parents de Thomas, c'est la quantité de travail produite. Thomas travaille plusieurs heures par jour. Il travaille tellement qu'il n'a plus le temps pour autre chose, ou presque plus. Il n'a que peu de copains, pas d'activités extrascolaires. Et les rares fois où ses parents le forcent à lever le nez de ses cahiers, il le fait visiblement à contre-cœur. Il demande sans arrêt à quelle heure ils vont partir, puis revenir. Il ne profite pas vraiment des sorties, tout occupé à vérifier qu'il aura un temps suffisant pour faire tous ses devoirs et réviser ses leçons. Ah, d'ailleurs, réviser ses leçons, tout un poème pour Thomas. Dès qu'il rentre du collège, il prend à peine le temps de grignoter un petit quelque chose, il grimpe les escaliers 4 à 4 pour travailler le plus vite possible. C'est qu'il ne peut pas se permettre de perdre du temps, Thomas. On comprend donc que ses parents soient inquiets. Un ado qui ne fait pas d'écran et qui passe son temps à travailler, c'est tout de même très bizarre. Mais ce qui les inquiète le plus, c'est l'échec de leur tentative pour le raisonner. « Mais tu as assez travaillé, Thomas, et puis c'est pas grave, tu sais, si t'as des mauvaises notes de temps en temps. Il n'y a pas que l'école dans la vie. » Mais Thomas devient agressif et désagréable avec eux à ce moment-là. C'est bien la preuve que quelque chose cloche. Aucun ado normalement constitué ne réagit de cette façon. « Mais mes parents ne comprennent rien !» s'exclame Thomas. « Ils ne se rendent pas compte. Déjà là, en travaillant 3-4 heures par jour, c'est juste. J'ai pas le temps d'apprendre tout correctement. Alors quand mes parents me disent ça, ça m'énerve et je les envoie bouler. » Et décidément, non, ses parents ne comprennent pas l'importance qu'il met à ses résultats scolaires. Des parents plutôt cool qui ne lui ont jamais mis la pression. Voilà donc un enfant très stressé. Déjà tout petit, c'était très important pour lui de bien faire. Dans les petites classes, il mettait beaucoup de temps à écrire. Il préférait mettre longtemps et faire bien plutôt que de prendre le risque de rater, m'explique sa maman. L'une de ses instites nous avait même dit « Je ne peux quand même pas l'encourager à mal faire ». Personnellement, je trouve ça dommage, car dans ce cas précis, cet enfant très stressé aurait beaucoup gagné à apprendre à faire des erreurs. Nous voilà donc avec un ado qui n'a jamais appris à vivre l'erreur comme une expérience douloureuse, mais intéressante. Avec trop peu d'erreurs à expérimenter, il n'a appris que le côté souffrance de l'erreur, le côté « ça fait mal ». Il n'a pas appris le côté « ah, j'ai appris un super truc en faisant cette erreur ». À force de ne jamais faire d'erreur, il en est venu à avoir peur, très peur même. Si je n'arrivais plus à travailler suffisamment bien à l'école, mais c'est ma vie qui s'écroule, je ne veux plus rien si je n'ai pas de bonnes notes, s'écrie-t-il. On voit donc bien ici qu'essayer de le convaincre de prendre des risques, c'est peine perdue. Le risque en question est bien trop grand à ses yeux. Plus on va chercher à le convaincre qu'il exagère, moins il va se sentir entendu et compris. Et moins il se sent entendu et compris, plus il pense aux risques tellement minimisés par les autres. Personnellement, je lui dis immédiatement que je ne mets pas de l'importance au même sujet que lui. Mais que quand un sujet est aussi important pour moi que le travail scolaire l'est pour lui, alors là, je ne suis pas du tout prête à lâcher tout comme lui. Et que effectivement, je trouve moi aussi un peu bête et agaçant ceux qui minimisent l'importance du sujet en question. Et que je vais donc de rechef expliquer tout cela à ses parents pour qu'ils arrêtent de prendre tout ça à la légère. Il m'interrompt alors que je fais mine de me lever pour faire entrer ses parents. Faut quand même que je vous dise quelque chose avant. Ah bon? Et quoi donc? Ben, des fois, je me rends compte que c'est un peu absurde, hein, mais je commence à travailler et puis je trouve que je n'apprends pas assez bien. Je commence à me dire que je vais avoir du mal, que je vais pas y arriver. Et des fois alors, je me mets à ranger mes crayons. Pas juste les mettre dans ma trousse, hein. Je les pose les uns à côté des autres, bien alignés. S'ils sont bien rangés, c'est comme si ça remettait de l'ordre dans mon cerveau. Et après, je recommence à travailler. C'est pas bien normal, ça, hein ? Reconnaître la légitimité de son émotion a permis à cet enfant très stressé d'exprimer des choses qu'il n'avait jamais dites à personne avant moi. Je lui réponds, je ne sais pas ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. Apparemment, ça te rassure, et après ça va mieux, non ? Dans ce cas, tout va bien. Ben, pas vraiment, répond-il. Enfin, pas toujours. Des fois, ça va mieux, et je peux me remettre à travailler. Mais souvent, faut que je recommence. Sinon, c'est comme si ça me jetait un sort. Plus rien ne va aller si les crayons ne sont pas bien alignés. Je vais avoir des mauvaises notes, et des fois même, je penserais qu'il pourrait arriver à malheur à mes parents. C'est horrible, ça. Mais c'est absurde. Pourquoi il leur arriverait quelque chose si mes crayons sont en désordre ? Mais j'ai le doute, alors je préfère le faire au cas où ce soit vrai. Et puis, ça me fait ça aussi avec mon sac. Mais en moins pire. Je le prépare le soir et je le revérifie le matin. Mais au moment de partir, j'ai toujours l'impression d'avoir oublié un truc. Alors je vérifie, je referme le sac. Et puis, j'ai à nouveau un doute. Et si j'avais encore oublié un truc ? Ou si j'avais mal vu ? Alors je le refais. Ça énerve ma mère qui me dit toujours « C'est bon, tu l'as vérifié 3 fois, on y va maintenant ». Elle a raison, mais c'est comme les crayons, je peux pas m'empêcher de le faire. Mais ça me stresse trop et je peux pas partir comme ça. Ça non plus, c'est pas bien normal, hein. On le voit, Thomas est victime d'un rituel, au départ rassurant, qui s'est emballé. Thomas ne peut pas s'empêcher de le faire et en même temps, le faire l'angoisse terriblement. Parfois, le contrôle rajoute de l'angoisse à la peur chez l'enfant très stressé. Thomas est coincé dans une logique de contrôle. Il commence à avoir un doute, une peur. À ce moment-là, il met en place un rituel, aligner ses crayons, vérifier son sac. Je l'avais expliqué dans l'article sur les rituels et les routines, le rituel peut donner suffisamment d'assurance pour passer à la suite, surmonter la peur. Mais dans le cas de Thomas, parfois, rarement, ça marche. Des fois, ça va mieux et je peux me remettre à travailler, dit-il. Mais la plupart du temps, ça ne marche pas. Il n'est toujours pas rassuré après l'avoir fait. Il se sent donc contraint de refaire son rituel. Et il n'est pas du tout prêt à prendre le risque de ne pas le faire. « J'ai le doute, alors je préfère le faire au cas où ça soit vrai, » dit-il. Cesser son rituel, comme le lui disent ses parents quand il vérifie son sac ou qu'il repasse la même leçon pour la 10e fois, lui paraît, rationnellement, tout à fait logique. Mais cela reste émotionnellement inaccessible, ce qui ne fait qu'ajouter à son angoisse et à sa confusion. Non seulement il est inquiet pour la suite des événements, mais en plus il angoisse d'être anormal. Il est donc temps de couper court à ce cercle vicieux que ses parents et lui entretiennent bien malgré eux. Que lui dire alors ? Je m'adresse à Thomas directement. « Tu sais Thomas, je ne sais pas ce qui est normal ou pas. Ce que je sais, c'est que parfois, nous faisons des choses qui nous sont utiles et parfois pas. Tu as l'air d'être dans ce cas. Parfois tu alignes tes crayons et ça va mieux. Parfois tu vérifies son sac et ça va, tu es rassuré et tu peux passer à la suite. On est d'accord ? Oui, c'est vrai, me dit-il. Et quand tu n'es pas rassuré, tu ne peux pas t'empêcher de revérifier et de réaligner. Quand tu t'en empêches, c'est comme si tu stressais encore plus. Tu commences à penser à tout ce que tu aurais pu rater, à des choses qui pourraient te tomber dessus ou à ta famille. Et quand tes parents essayent de t'empêcher de vérifier ton sac ou de repasser tes leçons, autant de fois que tu le voudrais, c'est pareil. C'est comme si ta peur se mettait à crier plus fort. Ah ouais, c'est pas faux. Donc, je me dis qu'on va déjà commencer par arrêter de faire crier ta peur. Donc, voilà ce que tu vas faire. Pour le moment, tu alignes tes crayons, tu vérifies ton sac, tu repasses ta leçon. Eh ben, on s'en fout. Pour le moment, c'est ta façon d'apprivoiser ta peur. Si tu ne le fais pas, le risque, c'est que ta peur crie encore plus fort. Donc, si tu as envie d'arrêter, demande-toi juste, est-ce que je suis prêt à prendre le risque de ne pas le faire ? Si tu réponds oui, alors tu ne fais pas. Et tu vois ce qui se passe. Si tu réponds « Non, je ne me sens pas capable », alors fais ce que tu as à faire. Mais fais-le le mieux possible en te concentrant bien. Tu alignes tes crayons, tu revérifies ton sac, tu repasses ta leçon. Mais attention, je vais te dire quelque chose de très très important. Je veux que tu envoies le message à ta peur que tu la prends très très au sérieux. Donc, tu ne vas pas vérifier qu'une seule fois. Tu dois absolument vérifier 3 fois au minimum, tu me comprends bien, 3 fois au minimum. Sinon, ta peur va penser que tu te fous de sa gueule et que tu essayes de la manipuler. Et elle va se venger, c'est clair ? Ah oui, j'ai compris. Mais pour le moment, je vérifie déjà souvent mon sac 3 fois. Je dois quand même le faire 3 fois ? Non, tu dois le faire 3 fois plus qu'avant. Si tu le faisais 3 fois, tu dois le faire 9 fois. Thomas est reparti avec sa tâche à faire pour voir si sa peur crie plus fort ou moins. Et que peuvent faire les parents face à un enfant très stressé qui contrôle? J'ai évidemment demandé à voir ses parents. Je leur ai expliqué l'engrenage dans lequel ils étaient coincés. Thomas semble avoir un indicateur de risque faussé. Il voit de grands risques, là où nous n'en voyons pas de si grands. Il en semble conscient, mais ne parvient pas à réparer son indicateur de risque. Quand vous dites à Thomas d'arrêter de vérifier son sac, quand vous lui dites qu'il a assez révisé sa leçon, vous pensez lui donner des indications utiles pour lui permettre de réajuster cet indicateur de risque. Et je précise que, effectivement, l'attitude des parents est tout à fait bien intentionnée et elle aurait parfaitement pu fonctionner. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la plupart des cas. L'enfant se range à l'avis de ses parents, relativise et tout roule. Je précise donc. Mais en réalité, vous lui envoyez bien malgré vous un message contre-productif. En effet, vous lui donnez certes des informations utiles, mais vous lui dites qu'il ne peut pas se fier à son indicateur de risque, ce qui ne fait qu'ajouter à son stress et à sa confusion. Il serait probablement plus utile pour sa confiance en lui qu'il apprenne à réévaluer de lui-même son indicateur de risque. Pour cela, je vais vous proposer de systématiquement lui renvoyer qu'il peut se fier à ce qu'il ressent. L'idée est ici d'inverser la tendance, ne plus envoyer le message « tu ne peux pas te fier à ce que tu ressens », voire même « nous savons mieux que toi comment il faut ressentir les choses », et le remplacer par un message plus aidant qui serait « tu es le mieux placé pour savoir ce qui te convient ». Et donc voilà ce que je propose à ses parents. Chaque fois qu'il viendra vous demander de lui faire réciter pour la xième fois sa leçon, par exemple, au lieu de lui dire « mais ça va, c'est assez », faites-le réciter, puis demandez-lui systématiquement « tu penses que tu la sais assez? Tu penses que ça va? Ou tu veux la réviser encore ?» Idem pour le sac. Au lieu de lui dire d'arrêter, dites-lui plutôt « tu es sûr que tu as tout bien vérifié? Tu as besoin de revérifier encore ?» Dans tous les cas, s'il dit que ça va, insistez encore un peu. « Mais tu es vraiment sûr? Tu ne veux pas le refaire pour être absolument sûr ?» Thomas et ses parents sont repartis. À la séance suivante, ils étaient ravis. Thomas, de ne pas avoir eu trop souvent besoin de refaire trois fois les choses, et ses parents de l'avoir entendu dire « Ah, mais ça va, je la sais assez cette leçon !» Après quelques séances, j'ai vu les parents revenir ravis à nouveau en me disant « Ouais, ça y est, il a eu un 13 !» Et Thomas avait enfin accepté de prendre des risques. Il était d'ailleurs très fier d'avoir réussi à avoir volontairement obtenu la note de 13, juste pour voir ce que ça faisait. Quelles sont les précautions à prendre si vous avez un enfant très stressé qui contrôle tout? La démarche que je viens de décrire fonctionne bien avec des enfants déjà un peu grands, avec des enfants plus petits, avant 6-7 ans, ou avec des troubles du comportement très installés. Bloquer le rituel en normalisant la réponse émotionnelle peut très bien fonctionner. Mais il faut bien normaliser la réponse émotionnelle. Oui, ça va être dur pour toi. Tu vas probablement pleurer, hurler et crier. Et ça va te faire mal sur le moment, mais tu vas y arriver. Ça marche bien si l'angoisse sous-jacente n'est pas trop intense. C'est donc adapté au début du processus d'emballement, lorsque l'enfant montre une émotion encore supportable. Dans tous les cas, restez présent et accompagnez l'émotion sans jugement est nécessaire. Attention, si l'émotion est vraiment trop douloureuse à vivre pour l'enfant, cette attitude peut renforcer le problème, à manier donc avec beaucoup de prudence. Dans ce dernier cas, le renforcement positif est alors très efficace. « Oui, tu as réussi à tenir 5 secondes, bravo, c'est génial, la prochaine fois on essaye 6 !» et ainsi de suite. Si l'enfant a des troubles type autisme, le renforcement relationnel, c'est-à-dire le compliment, sera utilement complété d'un renforcement matériel, bon point, objet, etc. Le renforcement relationnel seul est en effet souvent insuffisant face à une problématique émotionnelle très très aiguë. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver tous les articles en version écrite sur le blog blog.scomc.fr. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les semaines une newsletter pleine d'outils et d'informations sur mes prochaines activités. Merci. Est-ce comme c'est des outils pour la vraie vie.